Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h à suivre Eva Rock pour son zapping du lendemain avec une enquête catastrophe en terre bretonne et Bertrand Chameroy pour son écran de veille. Pas de catastrophe, ça va faire du bien. Notre invité, c'est le DJ et producteur de 21 ans depuis le 10 novembre dernier, Petit Biscuit. Il cumule 1,5 milliard d'écoutes sur ses titres. Il sort son nouvel album qui s'appelle Parachute. Angèle Châtelier va nous dresser son portrait musical. Et puis dans les indispensables, une youtubeuse sans tabou avec les adolescents, présentée par Eva Rock. Et le 12e jeu de la saga Assassin's Creed, ce sera avec Clément Le Saffre. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Deux Eva Rock pour le prix d'une ce matin. Mais non, je suis ravi. Moi, vous êtes désolé, moi je suis ravi. Bonjour Bertrand Chameroy.
Bonjour Philippe Vandel.
Un seul, mais je suis ravi quand même. C'est l'heure, c'est l'heure de votre écran de veille. Bertrand, où vous nous emmenez ce matin?
Dans un monde duquel Covid, stress et angoisse sont étrangers, un véritable spa audiovisuel dont les bulles de bienveillance vous chatouillent pour mieux vous changer les idées. Chaque dimanche, C8 propose un magazine qui fait du bien et il s'appelle...
Bienvenue dans le mag qui fait du bien.
Le mag qui fait du bien. Ouais, le jour du brainstorm sur le titre, les gars étaient super pressés de déjeuner. Hein. On appelle ça comment? Prenez soin de vous? Bien-être? Non, personne? Michel, c'est quoi? C'est un magazine qui fait du bien? Bon, bah, on l'appelle le mag qui fait du bien. Allez, fin de la réu, tous à la contoche. Ceci dit, ce serait pratique hein, si, comme le mag qui fait du bien, tous les titres d'émissions annonçaient clairement la couleur. Par exemple, l'émission d'aventure qui est coupée par de la pub toutes les 15 minutes pour Koh-Lanta. L'émission qui reçoit des gens qu'on voit tous les jours à la télé se plaindre qu'on les censure pour l'heure des pros. Ou l'émission qui accueille des retraités qui pensent refourguer leur vieillerie une fortune et qui repartent avec 56 balles pour affaire conclue. On y verrait plus clair.
Ouais. Bref. Et là, on vient de perdre 3 invités.
Mais pas du tout, on les adore. Ce qui est sympa dans le mag qui fait du bien, c'est que tout fait du bien.
Allez, on passe tout de suite au premier invité qui fait du bien.
Même les invités font du bien. C'est pas bien ça? Évidemment que c'est bien, c'est le mag qui fait du bien. Un mag animé par Karine Arsène à qui vraiment tout fait du bien. Elle est tellement solaire que même lancer un jingle qui fait du bien la fait rire.
On veut tout connaître hein, sur vos thérapies qui font du bien, mais avant cela, c'est le senti test qui fait du bien. C'est un test de personnalité. Jingle.
Il fait vraiment bien ce jingle. D'ailleurs...
On lui a peut-être raconté une petite blague entre-temps.
Non, elle est vraiment comme ça. Elle prend la vie comme elle vient, avec sourire. Le rire de l'animatrice aussi fait du bien. Ça m'a rappelé mon enfance. Elle a le même rire que Woody Woodpecker, écoutez.
J'ai hâte, j'ai commandé déjà un carnet. Je vous assure que c'est vrai.
Les deux mêmes. Le thème de la semaine était le sommeil, l'occasion d'apprendre par exemple qu'on passerait 20 ans de notre vie à dormir. Alors c'est une moyenne, hein. Quand on est sénateur ça peut monter jusqu'à 60 ans. Mais je le disais, le mag qui fait du bien c'est avant tout de la bienveillance. Quand une invitée parle trop, on ne lui dit pas de se taire, mais...
Et puis un outil de développement personnel. Hein. Alors on va faire une pause, c'est passionnant tout ce que vous dites, mais c'est le moment de retrouver notre rayon du soleil, c'est Valérie Romanoff.
Voilà, c'est passionnant hein, tout ce que vous dites, mais on va quand même passer à autre chose.
Hein. Mieux.
Merci. Mais quel monde merveilleux que celui du mag qui fait du bien. On s'y extasie pour un rien. Comme par exemple quand l'invité qui fait du bien, Christophe Lambert, classe des animaux par ordre de préférence. Il n'y a rien de dingue a priori, mais là-bas ça devient un événement.
Un tigre, un cochon, un cheval, un mouton...
Génial.
Génial. Il a simplement prononcé des noms d'animaux de la ferme et ils vivent ça comme s'il avait fait décoller une fusée. Ah, je sais pas vous, mais moi là, ben, je me sens bien. Allez, belle journée. Et je ne vous dis pas de bien prendre soin de vous, mais comme on dit dans le mag qui fait du bien.
On vous embrasse et d'ici là, ben, faites-vous du bien et puis aussi faites du bien aux autres.
Ben oui, forcément, c'est le mag qui fait du bien.
On s'en remet de ça. Merci Bertrand Chameroy. Ça vous a fait du bien, Eva, d'entendre ça.
Ah, je me sens très bien.
Alors,
très, très bien.
Ça tombe bien, parce qu'on va regarder du côté de notre soirée sur les écrans.
Oui,
c'est pour ça que je disais, ça fait du bien de commencer par cette mise en bouche, si j'ose dire. Les programmes forts, que le thème de ces programmes, Eva.
Eh ben, c'est le sacrifice. Se sacrifier pour l'autre, sacrifier une génération ou sacrifier une terre, comme la terre bretonne, ses cours d'eau et ses plages. C'est une enquête édifiante ce soir sur France 5 sur les conséquences de l'agriculture intensive. Alors attention, je préviens tout de suite, les agriculteurs ne sont pas mis en accusation. Le documentaire pointe du doigt une coopérative qui pousse les éleveurs à accroître leur cheptel et puis l'État accusé d'être inactif. En fait, les journalistes débutent leur enquête sur les plages souillées par les algues vertes que vous avez sans doute vues dans les journaux télévisés. C'est des algues toxiques, voire mortelles pour l'homme et remontent la chaîne de production. Une catastrophe environnementale, comme le raconte cette journaliste bretonne, fille d'agriculteur.
Il y a des projets de poulaillers de coquelets. J'ai vu ça, mais j'en revenais pas. Du coquelet. 37 au mètre carré. Parce que là, à Saint-Caradec et Pruerbut, il y a deux élevages qui vont se monter, 92 000 et 99 000 coquelets, 37 animaux au mètre carré. Enfin, vous imaginez, je sais même pas comment c'est possible. Je sais même pas. Vous avez envie de donner ça à manger à vos enfants, vous ? Moi, je préfère qu'ils mangent pas de viande.
Et puis les rejets d'ammoniac dans l'air, enfin, c'est... Il y aura des incidences. On est déjà en surchauffe environnementale. La seule voie de salut pour la Bretagne, ce serait de baisser le nombre d'animaux, de tous les cheptels.
Et ça évitera aussi les nitrates dans les cours d'eau. Enquête implacable sur la Bretagne qui est décrite comme une terre sacrifiée. Un seul regret, à mon sens, le silence de l'État et de la coopérative Triskalia qui s'est contentée d'un pauvre communiqué en guise de réponse. Autre documentaire et autre sacrifice est au Liban. C'est le mot sacrifice qui rythme les conversations. Arte diffuse un film intitulé « Liban, l'épreuve du chaos », l'histoire de ce pays indépendant depuis 1943 qui a été marqué par des drames, occupation par les armées étrangères, guerre civile, bombardement, jusqu'à cette terrible explosion au port qui a ravagé une partie de la ville il y a quelques semaines et qui a fait 200 victimes. Une tragédie symptomatique des maux auxquels est confronté le Liban depuis des années. Des personnalités comme le journaliste et historien Samir Kassir ont bien tenté de réformer la société libanaise. En vain, comme d'autres, il a été assassiné. Sa femme, la reporter franco-libanaise Gisèle Coury, raconte ce funeste jour de 2005.
Mon fils prend le téléphone, me dit « Maman, s'il te plaît, sois calme. L'explosion, c'est la voiture de Samir. » Je dis « Ok. Et Samir est où ?» Il me dit « Il est dans la voiture. » C'était... des assassinats contre le futur. Parce qu'ils voyaient bien que ces leaders, c'était le futur de ce pays. Et voilà, 15 ans après, les jeunes reprennent presque les mêmes slogans. Un état de droit, un pays démocratique, un système politique qui ne peut plus rester.
Gisèle Coury revient avec émotion sur ce moment qui a bouleversé sa vie et elle raconte aussi pourquoi elle a choisi avec regret l'exil comme bon nombre de ses concitoyens et elle parle de sa génération comme une génération sacrifiée. On va terminer avec un brin de légèreté mais toujours avec un sacrifice. Jean, il a sacrifié son PEL, son code de vie, son sel, toutes ses économies pour séduire Irène. Elle pense qu'il est milliardaire, en fait il est serveur et il peine un peu à boucler les fins de mois mais il veut lui plaire, alors première soirée.
C'est toujours l'invitation à dîner ?
Ah oui, bien sûr. J'ai trouvé une petite pizzeria sympathique dans la vieille ville.
Ah non, non, mais moi c'est pas pizzeria sympathique.
On va d'accord, comme vous voulez.
Non, non, pas pizzeria, tant pis pour la pizzeria. Et vive le resto gastronomique.
Alors, tu sais, j'aime pas le caviar. Je me force. Elle me dit qu'un jour, ça viendra. Parce que je suis sûre que quand on aime ça, ça doit être vraiment délicieux.
J'adore cette vanne. Gad Elmaleh face à Audrey Tautou, c'est le duo du soir dans la très jolie comédie romantique de Pierre Salvadori, Hors de prix, un numéro d'acteur servi par des dialogues croustillants, le film qui fait du bien. Pardon Bertrand, voilà,
mais la boucle est bouclée.
Voilà. Ouais. Je récapitule, Bretagne, une terre sacrifiée est à voir sur France 5 à 20h50, une génération sacrifiée, c'est dans Liban, l'épreuve du chaos sur Arte à 22h25, et un code de vie sacrifié, c'est dans Hors de prix sur France 2 à 21h05.
Merci beaucoup Eva Rock, à tout à l'heure, merci Bertrand Chameroy, à demain. Dans un instant, notre invité, le DJ et producteur surdoué Petit Biscuit. Mais d'abord, son nouveau titre.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
I'm driving through the night. Smoking a cigarette, windows down. I'm feeling this beat so hot. Been living fast, I'm electrified. I'm driving through the night. Smoking a cigarette, windows down. I'm feeling this beat so hot. Been living fast, I'm electrified. I'm walking through the town. City lights, I'm an insomniac. I'm surrounded by 100 sights. I'm looking at one, oh she blows my mind. I'm hanging out behind the club, yeah. These vibes that affect myself. These blue-eyed girls getting closer and closer. She's lit up by the rising sun. 6 a.m. time to move away. She's holding me back, wants us to escape. She pulled my arm with her cold hands. Yeah. We're running like there's no time to wait. Driving through the night. She kissed my neck and she holds me tight. I feel her heartbeat getting fast. like you know.
Driving Through the Night, c'était Petit Biscuit sur Europe 1. Dans un instant, il sera avec nous, avec vous, pour parler de son nouvel album, dont est issu ce titre, Parachute.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Petit Biscuit.
Bonjour.
Vous avez entendu, on vient d'entendre votre hit Driving Through the Night. Vous êtes DJ, l'enfant prodige de la scène électronique, comme l'écrit la presse. Vous avez connu un succès énorme avant même votre premier album et désormais vous en êtes à 1,5 milliard de vues, toutes plateformes confondues. Et la semaine dernière, le 10 novembre, vous avez tout juste fêté vos... Quel âge ?
21 ans.
Vous êtes où à l'instant ? Parce que vous n'êtes pas avec nous en studio, vous êtes où ?
Là, je suis chez moi, à Rouen, dans ma chambre.
Chez vous, chez vos parents ?
Là-bas. Exactement, ouais.
Incroyable, c'est la première fois que j'interroge quelqu'un qui a fait 1,5 milliard de vues et qui est encore chez ses parents. Vous avez un tube qui est connu dans le monde entier, que tout le monde a déjà entendu, sans toutefois parfois pouvoir mettre un nom sur ses accords, que ce soit dans des publicités ou dans l'émission quotidien. Ça s'appelle Sunset Lover. Combien de vues et d'écoutes pour ce titre ? Et en droit d'auteur, ça fait quoi ?
Alors, droit d'auteur...
Je vais vous dire le sens de ma question. C'est pas l'argent qui nous intéresse ici. Les droits d'auteur, donc les revenus, ça laisse la liberté de créer à votre guise. C'est ça qui est intéressant.
Ouais, c'est clair. Bah, en fait, moi, j'ai eu du mal pendant un moment avec Sunset Lover. Parce que je me disais, vas-y, c'est le tube, et en tant qu'artiste, on a tous envie de tuer un peu le tube.
Bien sûr.
Mais finalement, en effet, ça m'a permis de rester indépendant, en fait, de pouvoir financer mon projet comme je veux, investir dans des nouveaux clips, dans ce nouvel album qui s'appelle Parachute et tout. Donc en vrai, grosse aubaine. Ouais.
Exactement. Sur la pochette de Parachute, on vous voit en parachutiste blessé dans une combinaison jaune un peu lacérée avec des taches de sang. Alors que vous êtes, ouais, au sommet, vous êtes déjà tout cabossé.
Mais oui, bien sûr. Alors, au sommet, je sais pas, il y a encore beaucoup de marches à franchir.
Enfin,
mais
très
en
haut.
Tout cas,
enfin, c'est l'image du parachute, vous étiez très haut. Mais on vous imaginait pas qu'à bosser. Je veux dire, le sens de ma question, c'est que même votre entourage était opposé à montrer cette image de vous.
Ouais, c'était pas opposé. C'était, en effet, il y a pas tout le monde qui comprenait voilà vraiment le sens de la pochette. Et c'est parce que c'est très personnel, en fait. C'est lié aux blessures que j'ai pu accumuler, aux mini traumatismes quand j'étais en tournée, quand j'ai commencé ma carrière, en fait. Où en fait je suis rentré dans un, en fait j'ai été jeté dans la mer, quoi, littéralement.
Dans la fosse aux lions, c'était quoi ces mini traumatismes?
Et ben, par exemple, la tournée, c'est quelque chose de très difficile à vivre. Déjà, moi, je suis quelqu'un de très réservé, et j'ai eu la première fois que j'ai joué sur scène, j'ai eu 3 jours pour préparer 30 minutes de concert. J'ai bossé d'arrache-pied pendant une semaine, et c'était très compliqué, par exemple. Et en fait, on fait face à des réalités, des choses que j'imaginais pas, quoi.
Par exemple. Parce que nous non plus, on n'imagine pas.
Ben, par exemple, une tournée, je pensais que c'était juste des concerts, mais en fait, une tournée, on passe énormément de temps à attendre, très peu de temps à dormir, puisqu'on, surtout une tournée mondiale où, en fait, c'est des plannings très serrés. Donc, par exemple, si on a 2-3 heures de sommeil, Et puis on va à la green room, on attend pendant très longtemps. La green room, c'est la salle, c'est une petite loge quoi en gros.
Ouais.
On attend très longtemps pour jouer une heure et demie, puis rebelote. En fait, c'est cool pendant une heure et demie, mais sinon c'est interminable quoi.
Vous avez beaucoup tourné, donné des centaines de concerts, y compris dans des festivals absolument prodigieux comme Coachella. Dans le désert américain, il y avait avec vous Beyoncé, Eminem, The Weeknd. Excusez du peu, quel effet ça fait de jouer dans un endroit comme ça?
Ouais, c'est exceptionnel. En fait, c'est pas juste le festival. En plus, qu'on reste deux week-ends, donc du coup, c'est vraiment deux semaines à Los Angeles et à Palm Springs. Et en vrai, c'est grave cool. Il y a énormément de musiciens sur place. Il y a quasi tout le monde et c'est super simple de faire des rencontres. Et ouais, c'est toute une atmosphère en fait. C'est le désert, tout ça. Ouais, c'est vraiment. Un paysage de fou quoi.
On sent le gars timide qui apprécie le désert, qui est content de ne pas avoir du monde autour de lui. Vous restez avec nous, Petit Biscuit. Votre portrait musical avec Angèle Châtelier. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Culture Média qui continue évidemment en compagnie du DJ phénomène tel que le baptise la presse, Petit Biscuit, qui nous écoute en direct de sa chambre d'enfance chez ses parents à Rouen. C'est juste complètement dingue. On va entendre votre portrait en musique par Angèle Châtelier. Bonjour Angèle.
Bonjour Philippe.
Alors, je rassure ses fans, Hélène Manarino revient demain. Je rassure également Hélène que j'embrasse. À demain Hélène, mais Angèle avec vous donc, le portrait en musique.
Bonjour Petit Biscuit.
Salut.
Impossible de ne pas commencer ce portrait par ces quelques notes. La prélude de la première suite pour violoncelle de Bach, car votre vie musicale a commencé par cet instrument. Et ce morceau, il paraît que vous vouliez absolument savoir le jouer et vous avez demandé à votre professeur de vous l'apprendre. Est-ce que vous avez fini, enfin vous l'avez convaincu?
Ouais, complètement. Il a fallu quelques années, hein. On joue pas ça quand on a pratiqué pendant juste un an, mais en effet, je pense que c'est un peu, ce morceau, c'est un peu un tube, quoi, violoncelle, quoi, et genre, tout le monde l'a déjà entendu jouer par un violoncelle. Je pense que c'est ça qui cultivait un peu mon imaginaire, qui me disait, vas-y, j'ai envie de faire du violoncelle.
Et vous en jouez encore du violoncelle?
Ouais, j'en joue encore, ouais.
Alors, de la musique classique pour commencer, et puis vous avez grandi avec les Cure, Dépêche Mode, bref, tous ces groupes qui écoutaient vos parents, des CD qui trônaient sur les étagères de la maison. Mais alors vous avez suivi votre propre chemin et vous avez découvert l'électro. Et vient un jour où ce sont les enfants qui partagent leur trouvaille musicale aux parents. Vous, Petit Biscuit, vous leur avez partagé les chansons du DJ Floum, votre mentor, vous dites. Le DJ australien Floum qui a reçu un Grammy Award du meilleur album électronique en 2016. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Petit Biscuit, en l'écoutant pour la première fois?
Et ben en fait, j'étais sur SoundCloud. Du coup, c'est une petite plateforme, enfin une grosse plateforme à l'époque qui a un peu changé, mais qui proposait beaucoup aux artistes en fait de poster leur musique, voilà, de manière indépendante. C'était gratuit tout ça et voilà, c'est ce que, enfin c'est, j'imagine que Floum a démarré comme ça, et moi je traînais beaucoup sur SoundCloud, donc je voyais beaucoup de petits artistes commencer, et puis ouais, j'ai entendu ces sons, mais voilà, ça m'a fait vraiment quelque chose de spécial. En fait, je me suis dit que c'était ultra innovant et j'étais vraiment à la recherche de ça, à la recherche de nouvelles musiques, de choses que je n'avais jamais entendues avant quoi.
Alors SoundCloud, c'était sur votre ordi ou votre portable? Question fatale, est-ce que vous l'avez fait partager, est-ce que vous l'avez fait écouter à vos parents, est-ce qu'ils ont aimé?
Bah ouais, complètement. Mmh. Bah en fait ils sont, c'est vrai, c'est cool, ils sont assez ouverts. Bah déjà Dépêche Mode et tout, c'est un peu électro, ça,
ouais.
C'est un peu
bien sûr,
c'est un peu le début quoi, ça. Et en fait ouais, c'est juste, j'ai l'impression que c'est une évolution logique voilà, de recherche musicale. Et ouais, ils ont grave aimé ouais.
Alors le DJ Floum qui a parcouru le monde, vous aussi, notamment aux États-Unis où vous vous rendez souvent. D'ailleurs, à chaque fois que vous atterrissez là-bas, vous mettez un artiste dans vos oreilles, toujours le même. Il s'appelle D-Wave et il vient de Californie. Est-ce que c'est pour vous imprégner de l'odeur, de la vue, de l'aura des États-Unis que vous l'écoutez à chaque fois? Pourquoi ce rituel?
Ben, en fait, c'est juste que, je sais pas, sa musique m'évoque vraiment, encore une fois, les États-Unis. Tout à l'heure, je parlais d'imaginaire avec le violoncelle, c'est encore ça. Toutes ces musiques, ça m'évoque vraiment mon imaginaire un peu californien surtout quoi.
Alors vous renoncez pas à vos rêves, petit biscuit, vous êtes quelqu'un d'hypersensible, vous aimez contempler les choses et votre musique nous y invite d'ailleurs. Vous vous imprégnez du monde mais aussi de vos rencontres musicales. Il y a quelques mois vous avez rencontré Mathieu Chédid, M, et vous avez passé la journée à faire de la grade, vous dites, de la guitare, de la basse, à écouter des démos. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté cette rencontre ?
Bah en fait c'est quelqu'un de super intéressant et puis ça fait un peu cliché de dire choc des générations parce que moi j'ai trouvé que c'était justement quelqu'un d'ultra frais moderne et c'est en vrai c'est un plaisir parce que j'ai fait beaucoup de sessions avec des artistes où il se passait pas grand chose parce qu'on était trop focus à essayer de faire du son et avec Mathieu en fait on n'essayait pas particulièrement de faire du son, on était plus là on jamais, donc on faisait de la guitare, de la basse, on était sur les synthés et tout, et en fait c'était trop cool. J'ai eu l'impression que c'était en fait que c'était ça de s'amuser vraiment avec des artistes.
Et je vais finir par une chose, petit biscuit, c'est pas tellement une musique de votre vie, mais plutôt un bruit que vous entendez souvent en ce moment. C'est une voiture, parce que vous êtes en train de passer votre permis, d'ailleurs.
Non, c'est lui qui conduit là.
Non,
alors, il roule bien vite ce gars.
Mais d'ailleurs, les personnes qui travaillent avec vous, elles doivent s'adapter à vos heures de conduite. Ça va, vous arrivez à tout mener de front en ce moment ?
Bah non parce que là c'est le confinement
ouais,
donc du coup je peux pas mais c'est ouf parce qu'en fait le premier confinement voilà je commençais à conduire et tout et là j'étais à deux doigts de passer le permis et puis il y a encore un confinement, c'est vrai que c'est une bonne galère mais je vais l'avoir un jour.
Oui, on vous le souhaite. Ouais.
On vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci Angèle pour ce portrait musical. Angèle, il y a votre voiture qui gêne, qui est en double fil.
Je vais la chercher.
Dans un instant, notre premier indispensable avec Eva Rock qui va nous faire découvrir le travail d'une youtubeuse qui a le don de faire parler les ados. À tout de suite avec Petit Biscuit.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Petit Biscuit, DJ Phénomène, comme on dit dans la presse quand on n'a pas d'autre idée. J'avais pas d'autre idée à dire que celle-ci. Votre nouvel album, c'est le deuxième, il s'appelle Parachute. On n'en a pas encore parlé, c'est quoi musicalement l'idée de cet album ? Vous êtes parti vers quoi ? Est-ce qu'il y avait une ligne directrice ?
Ben justement, peut-être la ligne directrice c'était ma voix parce que je me suis mis beaucoup à chanter en fait par rapport à d'anciens morceaux qui étaient instrumentaux. Après au niveau des styles musicaux, ouais c'est très différent. Hein. En fait c'est ma patte de faire des choses différentes à chaque fois.
Ouais, et ça part un petit peu dans tous les sens. Vous avez pris des cours de chant parce que vous avez pris des cours de violoncelle, de guitare. Parce que quand même, pardon de ce compliment, vous chantez très très bien, ce qui n'est pas donné à tous. Vous avez pris des cours de chant ou c'est venu comme ça?
Ouais, j'ai pris quelques cours, mais c'est aussi venu comme ça. Et puis en vrai, c'est beaucoup d'entraînement. Je pense que c'est avec le temps. Il faut aussi quelque chose qui est important, c'est d'essayer de trouver sa signature, je pense, vocale. Je sais pas si je l'ai trouvé encore, mais en tout cas, il faut chercher quoi.
On vous le dira dans 40 ans. Il y a également des titres complètement barrés musicalement. Par exemple, dans le dernier titre de l'album, on va vous entendre chanter. Ça s'appelle Hang On. Interviews, on entend une femme qui soupire. Dans les interviews, vous dites que vous prenez pas de drogue et j'ai envie de vous dire, pas besoin.
Ouais, bah non, c'est clair. Ah oui, c'est...
ouais, c'est clair, là, ouais, non.
Ah ouais, j'ai pas besoin de m'étaler, ouais, c'est clair, y a pas besoin.
Mais là, c'était quoi l'idée? Vous étiez dans quel état d'esprit au moment de composer cet album? Pas seulement ce titre, mais l'album.
Les soupirs.
Ouais.
Ah non mais bah, moi j'étais en Islande. Moi j'étais en Islande et aux États-Unis quand j'ai composé l'album. Ouais. Mais après j'étais isolé en fait.
Ouais.
C'est peut-être ça ma drogue moi, c'est les voyages peut-être.
Ouais. Et les soupirs, ils viennent d'où?
Les soupirs.
Ouais. Cette question vient de m'être glissée par Eva Rock.
C'est pas vrai. Non, absolument pas. Vrai. J'aurais pas jamais osé.
C'est pas vrai. J'assume la question.
Tu peux. Il y a pas. Tu peux. Hein. Non mais je sais plus. Alors soit je les ai fait. En fait moi parfois je les fais. Et je les pitch différemment si je veux que ça sonne plus homme ou femme.
Ouais.
Et là, je crois que j'ai fait celui-là.
Ouais, ça sonnait quand même très très féminin. Eva,
oui.
Vous êtes de retour.
Oui.
Et c'est pas vrai, vous ne m'avez pas soufflé et cette question désagréable. Vous êtes de retour, Eva, avec un coup de cœur pour une chaîne YouTube.
Oui, et j'ai pensé à vous, Petit Biscuit, quand j'ai découvert la nouvelle série documentaire d'une jeune vidéaste dont j'admire le travail. Vous allez comprendre, enfin j'espère que vous allez comprendre pourquoi j'ai pensé à vous. Elle s'appelle Léa Bordier et son métier, c'est de faire accoucher les gens. Elle est pas sage-femme. Elle a cette capacité à faire parler les gens, à les amener à raconter leur histoire, leur expérience. Et sa dernière série documentaire s'appelle « On en parle ». Léa Bordier donne la parole à des adolescents. Et je crois, petit biscuit, que vous allez pouvoir vous reconnaître en partie dans ces témoignages.
Il a 21 ans, c'est plus un
mais
ado.
Mais oui, mais bien sûr, mais ça fait pas si longtemps que ça qu'il est sorti de l'adolescence. C'est pardon, vrai. Beaucoup plus récemment que moi.
Ouais.
Voilà, hein, que nous tous, voilà. Et alors écoutez bien, ce sont des paroles d'adolescents qui sont loin des clichés habituels.
Je pense que le cliché qui m'énerve le plus sur l'adolescence, c'est qu'on est tout le temps sur nos téléphones. Alors que je trouve que les adultes sont vraiment pas mieux là-dessus. On fait cette remarque à tous les ados tout le temps, je pense.
Tout le monde dit qu'on est feignant, qu'on fait rien, on fait que dormir. Mais je pense qu'il y a une raison, parce qu'on grandit, c'est fatigant. Nous, on est fatigués. En plus, il y a les cours, il y a notre sac à porter, notre dos, il est fatigué. Nous, dès qu'on rentre, on voit notre lit, on va forcément s'asseoir. Enfin, s'asseoir, je veux dire dormir. Et du coup, oui, parce qu'on est super fatigués. Enfin, moi, je suis fatiguée tout le temps.
Moi, elle je me sens très adolescente.
Elle a absolument raison. J'avais fait un pourquoi là-dessus. Pourquoi les ados dorment tout le temps et se couchent très très tard. Et c'est absolument normal et biologique. Ils ont quel profil, ces ados?
Alors, ils sont tous très différents. Ils vivent partout en France. Ils ont entre 14 et 16 ans. Sexuellement, certains se cherchent encore. D'autres affirment déjà leur homosexualité. Sonny, par exemple, il espère changer de sexe. Et malgré toutes ces différences, eh bien, ils sont concernés quand même par les mêmes thématiques, à savoir le rapport au corps, la puberté et, évidemment, l'amour.
Si je tombe amoureux, ben genre... la première, genre, il n'y aura pas d'autre.
Pour moi, en fait, je suis tout le temps amoureuse de plein de gens. Pour moi, un crush, c'est déjà un peu être amoureux. Enfin, c'est juste ressentir un truc super fort et du coup, oui, je pense que j'ai déjà été amoureuse.
J'étais amoureuse de plusieurs personnes, sauf que j'en ai aimé plusieurs. Alors, c'était que des filles pour l'instant, mais je me doute qu'un jour, pour l'instant, je me pose pas la question, je m'en fous de qui j'aime.
J'adore ces témoignages. Et alors, vous allez écouter Raphaël, il a 14 ans. Et alors, pour lui, c'est encore un petit peu compliqué.
Je veux pas être méchant non plus, mais les filles, des fois, ça casse un peu la tête. Celle que vraiment j'étais amoureuse le plus, elle me cassait beaucoup la tête. Ouais, mais c'est qui elle? Pourquoi t'envoies des cœurs? Alors que des fois, c'était ma mère. D'un côté, c'est bien d'avoir une fille à ses côtés parce que c'est pas comme un ami, c'est comme une amoureuse, tu la vois pas. Je sais pas, c'est bizarre, tu as pas quand même la même chose.
Et Eva, tous ces ados se livrent sans problème?
Oui, alors en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Ouais. Mais Léa Bordier, elle a acquis une expérience en la matière. Ça fait des années qu'elle collectionne ses témoignages. Elle a une forme d'empathie que je trouve remarquable. Et par ailleurs, elle ne se contente pas de recueillir cette parole. Elle hiérarchise les propos. Et puis, elle est sublime, surtout grâce à ses talents de réalisatrice. Alors parfois, on l'entend rire face à ses ados.
Ça
y a
vous
de quoi.
Fait rire.
Oui, parce que je rigole d'avance, parce que je connais l'extrait, évidemment. Écoutez l'expérience de Valentin, il a 16 ans.
La dernière fois, il y a une meuf qui m'a expliqué tous les explications des smileys et tout ça. Mais je suis passé à côté de plein de choses, en fait. Non, mais vraiment, il y a plein de gens qui m'envoyaient des smileys, je comprenais pas ce que ça voulait dire et tout ça.
Des yeux avec des traits en dessous, je sais pas trop le faire. En gros, ça veut dire qu'il y a un sous-entendu dans ce que tu dis, un truc comme ça. Sauf que moi, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Du coup, je répondais à un smiley qui rigolait ou des trucs comme ça. Ça, c'est parce que je suis dans ma bulle et que je comprends rien. Je suis tout le temps dans le ciel, moi, je comprends pas.
C'est si difficile cette période de l'adolescence, on est tous passés par là. Alors je vous propose de finir avec Raphaël. Quand on lui demande ce qu'il regarde en premier chez une fille, vous allez voir la réponse, elle fuse.
Et les fesses, c'est... je sais pas, c'est comme un coussin, mais... Et les seins aussi. Ouais.
Voilà, les fesses et les seins, comme ça c'est clair. Le travail de Léa Bordier est absolument formidable. Prenez le temps de découvrir toutes ses vidéos sur sa chaîne YouTube. Elle est en train de construire vraiment une photographie de la société française extrêmement intéressante. Des bouts d'humanité qui racontent aussi la jeunesse en 2020. Alors forcément, j'ai envie de demander à Petit Biscuit comment il a vécu son adolescence. Est-ce que vous étiez déjà un peu confiné dans votre chambre à faire que de la musique ou vous avez vécu ces affres de l'adolescence, comme on dit?
Ben, les deux. En fait, j'ai eu ma période un peu... Je suis pas autiste quasiment, où c'est vrai que je restais beaucoup enfermé à faire de la musique, parce que mais après c'est cool parce qu'en même temps j'ai ça m'a permis de connaître vraiment de pousser la technique et ouais, j'ai eu aussi ma partie de vie où j'allais en soirée c'est vrai que mon adolescence s'est peut-être arrêtée à 16-17 ans quand je suis parti en tournée mondiale en fait.
Et oui.
Oui, c'est ça le problème, partir en tournée mondiale à 16 ans.
Mais on est d'accord que la musique, ça rend les choses un peu plus faciles avec les filles, Petit Biscuit.
Clairement, c'est très mauvais. Alors, parce que moi aussi, je suis comme ça, mais chacun son truc, mais moi, je trouve ça très mauvais d'en profiter. Je pense qu'il faut être avec quelqu'un pour... voilà, enfin, faut que la personne qui soit avec toi aime qui tu es, pas ce que tu représentes, quoi.
Elle pose ces questions difficiles, Eva Rock. Merci, Eva. Merci. Je vous dis à demain. Petit biscuit, vous restez avec nous à parler de jeux vidéo, mais d'abord musique avec Tom Grégory.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Petit Biscuit, pour son album Parachute, et Clément Le Saff qui nous a rejoint, on va parler de jeux vidéo. Petit Biscuit, est-ce que vous êtes un gamer?
C'est un bien gros mot, hein, mais...
Vous l'avez été ou même pas?
Comment?
Vous l'avez été ou même pas? Ou vous étiez à fond sur vos ordi, mais pour faire de la musique?
Si, en vrai, je l'ai été, j'ai eu une période où je jouais beaucoup, mais en vrai, ça a duré 6 mois. Bon, en plus, j'avais pris genre 3-4 kilos et tout.
Ça peut arriver quand on joue beaucoup d'un coup.
Ouais, il faut le dire, mais c'est normal. Clément Le Saffre, vous jouez beaucoup?
Je joue beaucoup. Mais je précise
ça parce que vous êtes tout mince, Clément Le Saffre, et aujourd'hui, vous avez un jeu vidéo idéal en cette période de confinement, jeu qui va nous faire voyager.
Oui, puisque Petit Biscuit nous disait que sa drogue, c'était les voyages. Que diriez-vous d'une croisière dans les fjords en Norvège? C'est pas mal, ça. Ouais. Hein, c'est magnifique, surtout à cette période de l'année avec la neige, les aurores boréales. Mm. Bon, par contre, je vous préviens, le confort est plutôt spartiate. Hein, c'est pas Costa Croisière, plutôt un vieux drakkar en bois. Et puis les passagers sont un peu rustres, hein, ce sont des vikings, voilà, tout simplement les vikings d'Assassin's Creed. Valhalla, le 12e jeu de la série Assassin's Creed, il vient de sortir. C'est une licence très populaire et française, rappelons-le. Chaque épisode offre un voyage dans le temps et cette fois-ci, on part donc pour les étendues glacées de la Norvège. C'est là que débute l'épopée du héros Eivor.
Tu as donné un nouveau foyer à ton peuple quand il a fallu quitter vos terres. Tu as donné aux vikings une raison de se battre. Tu as dompté ces royaumes brisés. Va, Eivor. Va gagner ta place au Valhalla.
Voilà, donc ça met en scène hein, les conquêtes vikings au 9e siècle. Rapidement, on quitte donc la Norvège, direction l'Angleterre, la terre promise. À l'époque, c'est juste un assemblage de royaumes marécageux. Un régal pour des vikings assoiffés de gloire.
Mais là, c'est quoi ce jeu? Donc c'est un jeu de guerre version Moyen-Âge ou c'est un jeu d'aventure?
En fait, c'est un peu les deux. Et c'est surtout loin de ce qu'était la formule initiale de la série. Au début, Assassin's Creed, comme son nom l'indiquait, c'était un jeu d'infiltration. Il fallait se faufiler discrètement dans des palais pour assassiner des cibles. Ça existe toujours, hein, ça, dans Valhalla. C'est un aspect du jeu, mais clairement, maintenant, on est plus poussé vers l'aventure, les grands espaces, les batailles épiques. C'est un jeu XXL, un jeu dans lequel on se bat beaucoup, certes, hein, c'est une bonne partie du jeu, mais c'est aussi un moment dans lequel on prend le temps, en fait. On prend le temps dans ce jeu de se balader à cheval dans les champs, de bâtir et développer son propre village, sa colonie de peuplement, d'aider les habitants qui ont besoin de nous. Bref, il y a 1000 choses à faire. Dites-vous que j'en suis, moi, à 30 heures de jeu en 10 jours. C'est pas mal, déjà, ouais. Mais j'ai à peine fait un tiers de l'histoire.
Donc un tiers en 30 heures, c'est donc qu'il faut une centaine d'heures pour le finir. Heureusement qu'on est reconfiné. Ça veut dire que c'est quand même très immersif.
Complètement. C'est un monde qui est d'une richesse incroyable, qui fourmille de détails, les ruines de temples romains, les fermes avec leurs murets en pierre très anglaise qu'on connaît aujourd'hui et qui existait déjà à l'époque. Londres, qui s'appelait London à ce moment-là, une ville en plein essor. Cette reconstitution de l'Angleterre du 9e siècle est très recherchée. Et il faut savoir qu'Ubisoft, pour ça, travaille avec des historiens qui sont chargés d'apporter l'authenticité au jeu. Et parmi eux, il y a Thierry Noël. Vous allez voir, c'est un travail très sérieux.
Typiquement, une question, on nous demande comment est une serrure à l'époque. On fait des recherches sur les teintures utilisées à l'époque, donc les couleurs potentielles des vêtements. Ça peut être aussi matériel. Il y a tout un travail qui a été fait avec des linguistes, que ce soit en ancien anglais ou en ancien norrois, pour essayer de reconstruire aussi des mots, en fait, se poser la question de quels étaient les mots employés à l'époque.
Voilà, donc tout ce travail que vous avez entendu, ça se voit vraiment, le jeu très réaliste, et c'est mis en valeur par des graphismes d'une grande finesse, hein, rien que pour admirer les aurores boréales au sommet d'une montagne enneigée, bah, le jeu vaut le coup.
Bien noté, où est-ce qu'on peut jouer au jeu? Si on veut jouer, pardon, et on veut se l'offrir pour Noël, ça se passe par où? Comment on fait?
On y joue déjà sur PC, sur PS4 et sur Xbox One, et puis pour ceux qui ont déjà ou auront la chance d'en avoir une, eh bien Assassin's Creed Valhalla est aussi disponible sur les nouvelles consoles, celles qui sortent en ce moment même, la Xbox Series et la PlayStation 5.
Petit Biscuit, on a bien compris que les jeux vidéo, c'était plus votre truc. D'ailleurs, vous avez perdu les kilos. On va parler musique dans la dernière partie de l'émission. Merci beaucoup, Clément Le Saffre. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie du DJ et producteur Petit Biscuit, dont le deuxième album vient de sortir, il s'appelle Parachute. Il est absolument magnifique et remarquable, comme les titres et les sons que vous avez pu entendre. Question qui peut-être va fâcher, est-ce qu'il y a des concerts prévus à annoncer?
Alors là, ouais. Question piège. Bah du coup, en fait, j'étais censé peut-être faire une tournée en été 2021.
Ouais.
Mais pour l'instant, c'est trop flou encore et on attend un petit peu avant.
Les règles de
avant, avant de voir. Mais espérons que ça le fasse pour été 2021. Ouais.
Vous avez une histoire absolument phénoménale. Quand vous avez démarré dans les festivals, vous avez 15 ans, 16 ans, et les organisateurs étaient obligés de vous programmer l'après-midi. Je vous laisse dire pour quelle raison.
Parce que j'avais moins de 18 ans. Après ça va, ça dépendait en vrai. C'était pas toujours l'après-midi. Puis ouais. Parfois, on pouvait faire des dérogations, tout ça. En vrai,
ouais. En vrai, les dérogations. À la fin, ça allait. Votre maman est française, psychologue. Votre papa est marocain, ingénieur, prof dans le supérieur. C'est un cousin éloigné, Tar Benjelloun. Je vais dire pourquoi je le cite, parce que c'était notre premier invité en début de saison. Vous okay. avez Angèle nous racontait que vous aviez démarré le violoncelle à 5 ans. Il y a beaucoup de synthé dans l'album, beaucoup d'effets, beaucoup de samples, mais également des parties acoustiques. Pour quelle raison? C'est un genre vers lequel vous voulez aller?
Ouais, après, en fait, j'ai toujours intégré des éléments acoustiques dans mes sons, parce que moi, je viens de là, à la base, j'ai une culture acoustique, je fais du piano, je fais de la guitare, je fais du violoncelle. Mais là, de plus en plus, j'essaye de les intégrer dans leur forme la plus brute possible, en fait. C'est ce que j'aime. Moi, j'aime les choses brutes. Maintenant, quand j'enregistre des guitares et tout, je l'enregistre avec le son de toute la pièce, tout ça. Je trouve ça grave cool.
Il y a une très belle partie de guitare dans Takeover. Qu'on peut entendre par là. Vous avez passé le bac S, mention très bien. Je dis ça pour tous les parents qui s'inquiètent parce qu'ils voient leurs enfants faire de la musique et disent « Oh là là, les études d'abord ». Quand Libération avait dressé votre portrait, c'était déjà en novembre 2017, ils ont écrit ceci. « Pour ne pas passer pour le surdoué de service, le garçon préférerait qu'on n'écrive pas qu'il étudie les maths dans une université parisienne ». Bon, ils l'ont quand même écrit, c'est ce qu'on appelle la prétérition. Vous allez toujours en fac ou c'est terminé?
Non, c'est fini là. Ça fait longtemps. Ça fait, je sais pas, ça doit faire. En vrai, je crois que quand tu m'avais interviewé Libération, je crois que c'était genre 2 semaines avant que tu dises, ok, bah en fait, je peux plus aller à la fac puisque là, je vais partir aux États-Unis 2 mois. Après, je vais faire un machin. Et donc, du coup, je suis allé voir à la fac. J'aurais dit, bah, c'est fini. Et puis, on s'est serré la main. Et puis après, je suis parti en tournée. Hein.
Ouais, c'était la période où on avait encore le droit de se serrer la main. Je ne l'ai pas dit encore. Votre premier album, il s'appelle Présence. Il est évidemment disponible. Et cet album a été classé dans la catégorie Album Révélation aux Victoires de la Musique. C'était en 2018. Alors, je ne vais pas vous demander pour la 50e fois. Vous en avez marre qu'on vous demande ça. Je le comprends. Pourquoi vous avez choisi comme pseudonyme Petit Biscuit? Je veux juste savoir si les jeux de mots sur votre pseudonyme vous font encore rire. Je vais citer un papier que je trouve dans la presse. Petit biscuit, la cerise sur le gâteau. Petit biscuit est décidément une bonne pâte. Ou petit biscuit à croquer.
Ouais, ben... disons que ça tourne en rond, quoi.
Ouais, j'ai remarqué. Vous en avez d'autres ou pas?
Non, mais parfois on m'en sort des originaux. Je valide le geste. Mais bon. Ça me fait rarement marrer.
Sans aucun commentaire autre que celui-ci. Le nouvel album de Petit Biscuit est une petite merveille. On entend un extrait de I Live Again. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
En direct de votre chambre d'ado depuis Rouen, je n'en reviens toujours pas. Je vais m'y refaire. Petit Biscuit, disponible partout. L'album s'appelle Parachute. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média avec David Douillet, l'ancien champion olympique du judo, ancien ministre des Sports, revient à la télé avec une nouvelle émission Team David sur Automoto, la chaîne, ça ne s'invente pas. Et puis le réalisateur François Ozon pour la sortie en DVD de son magnifique film Été 85. Après le flash, c'est Anne Romanoff pour Ça fait du bien. Je vous dis à demain, merci encore et salut Petit Biscuit.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.